L'Institut de la Vision, l'Institut hospitalo-universitaire Foresight et le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 présentent Les experts parlent aux patients, le podcast de la Web TV de l'Institut de la Vision. Ce podcast, à destination des patients et du grand public, est un carrefour de rencontres et d'échanges entre cliniciens, médecins, chercheurs et patients autour des différentes pathologies oculaires.
Eh bien, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle Web TV, comme nous avons l'habitude de le dire, de l'Institut de la Vision. Et vous le savez, c'est un moment délicieux de l'année. C'est la veille du jour le plus long, la veille du solstice d'été. Nous sommes le 20 juin. La lumière est partout, la lumière rayonne. Donc, très naturellement, cette émission est consacrée à la lumière. Lumière bénéfique, lumière toxique, lumière bénéfique et toxique pour l'œil, peut-être aussi pour l'âme. Nous le verrons, pour le corps tout entier, nous le verrons avec nos intervenants. Ils sont au nombre de 3. Serge Picot, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche et directeur de l'Institut de la Vision. Le professeur Christophe Baudouin, bonsoir. Vous êtes chef de service au 15-20, Hôpital National de la Vision. Je crois qu'il a été très récemment rebaptisé. Hein, le nom est dorénavant gravé dans le marbre.
Exactement.
Voilà. Et nous avons, comme pour chacune de nos éditions, une patiente experte, on dit ça, une patiente référente, Véronique Pesset. Bonsoir, vous êtes atteinte du syndrome de Sjögren qui a pour particularité de dessécher les muqueuses, donc de dessécher l'œil. Quel est le rapport, s'il vous plaît, avec la lumière ?
Ça génère une certaine photophobie à la lumière, une gêne quotidienne dans différentes situations. On pourra discuter un peu plus tard.
On va en parler tout à l'heure. On va parler des différentes études ou des protocoles auxquels vous avez participé et de la manière dont la lumière vous heurte ou vous fait du bien. Alors, peut-être qu'on pourrait démarrer de manière extrêmement didactique, Serge Picot, en évoquant... un poète dirait l'arc-en-ciel, les gouttes de pluie, qui tout d'un coup une décomposition du spectre des couleurs et de la lumière, mais on va être un peu plus scientifique. Le spectrogramme, on va en voir un, vous allez nous expliquer à quoi correspondent les zones de la lumière qui fait du bien et de la lumière qui devient toxique.
Oui, alors vous décrivez vraiment très très bien la lumière.
J'y connais rien.
Et cette décomposition grâce à la pluie, en fait, du spectre de la lumière, puisque bon, les physiciens le font avec des prismes, mais finalement, la pluie réalise la même fonction. Elle va en fait décomposer la lumière en un spectre où on voit donc toutes les couleurs, toutes les couleurs en fait de la lumière. Oui. Et en particulier, donc peut-être on verra à l'écran s'afficher du coup ce spectre.
Voyons-le.
Donc il y a à la fois les UV qu'on ne verra pas, mais qui sont très toxiques, mais qui peuvent avoir aussi un effet bénéfique, en particulier pour tout ce qui est synthèse de vitamines.
Oui. Autre.
Hein. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans la lumière, donc on a le bleu, et puis on a toutes les autres couleurs, le vert, le rouge. On voit tout ce spectre, et c'est exactement les couleurs de l'arc-en-ciel.
Absolument. Hein.
Donc, et ce qui a été montré, donc nous avons d'ailleurs à l'Institut de la Vision
participé. Vous avez démontré quelque chose en 2009-2010, quelque chose d'important.
Enfin, depuis à peu près 2010, on travaille sur comprendre quelle est la partie toxique dans ce spectre.
C'est ça.
Et ce qu'on voyait donc sur ce spectre, il y a une partie qui est marquée DMLA, tout simplement parce que il a été montré que la lumière est un facteur de risque pour l'induction de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et il semblerait que c'est vraiment la lumière bleue qui serait responsable, ou du moins qui pourrait accélérer l'évolution de cette maladie. Donc c'est important quand même de préciser ça. Et puis après, dans la lumière, il y a d'autres composantes, et en particulier une composante qui est très importante pour nos rythmes circadiens. Nos rythmes de veille, sommeil, donc ces rythmes, et aussi pour recaler éventuellement cette horloge interne. Hein, lorsqu'on se déplace, on parle de décalage horaire.
Absolument. Hein, les voyageurs.
Pour arriver à remettre notre horloge dans la bonne gamme, il est conseillé de se mettre à la lumière et à une lumière assez vive. Du soleil, et ça va être la lumière bleue turquoise, Alors, pourquoi bleu turquoise? Ben, parce qu'on est très proche du
vert. On va revoir le spectrogramme.
Et justement, dans cette partie, c'est plus ce qu'on appelle vers 500 nanomètres, là, un petit peu en dessous de 500 nanomètres. On voit que le bleu est effectivement un bleu turquoise. Et c'est cette gamme de lumière qui va, en fait, recaler nos rythmes circadiens. Et on sait tout le bénéfice, puisque la dépression automnale, c'est justement le manque de cette activation par ces longueurs d'onde.
C'est aussi simple que ça. Et donc, ça veut dire, question corollaire, c'est aussi fondamental que ça, la lumière.
Ben oui, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut conseiller à tous de faire une pause dans la journée, surtout l'hiver, et d'aller à l'extérieur où, justement, on va pouvoir s'exposer à cette lumière qui va nous manquer autrement dans nos espaces internes. Mm-hmm. Puisqu'en fait, lorsqu'on est à la maison ou au travail, l'intensité lumineuse est relativement faible. Et du coup, on ne va pas être exposé suffisamment, à une lumière suffisamment intense surtout, dans cette gamme de bleu turquoise.
Merci, Monsieur Picot. Christophe Baudouin, sur le même spectrogramme qu'on va revoir, avez-vous envie d'ajouter quelque chose ?
Oui, j'ajouterai à cela la particularité des lumières artificielles auxquelles on est soumis.
Alors,
en particulier avec les LED.
Ah, les LED.
Les LED et leurs corollaires.
LED.
Et leurs corollaires, c'est-à-dire les écrans qui sont formés de LED. Les LED, celles qui nous éclairent maintenant de plus en plus, par exemple, celles que nous avons dans les yeux, sont très chargées en lumière bleue.
Ouais.
Alors, on a tous remarqué que les lumières très froides, très blanches, sont très agressives. Si on la regarde, on regarde une source lumineuse pendant un moment, on voit bien qu'on garde une trace noirâtre d'ombre, qu'on appelle une post-image, qui reste une espèce d'imprégnation de la rétine par cette lumière. Ce qui fait que les fabricants ont modifié un petit peu leurs habitudes, d'une part, et leurs recommandations. Je pense que c'est important d'expliquer. Les LED très bleus sont extrêmement désagréables, donc ils ont développé des LED dites de couleur chaude. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a toujours le même bleu, toujours le même pic de bleu, mais qu'il y a un deuxième pic de jaune qui est fait pour atténuer cette lumière bleue. Donc on a toujours la même forte concentration en lumière bleue. Le deuxième point, c'est qu'ils ont quand même recommandé très fortement d'éviter de regarder les sources lumineuses, parce qu'elles sont potentiellement toxiques. Alors potentiellement, on peut en discuter, il y a certainement des personnes qui sont beaucoup plus à risque, mais cette lumière bleue agressive qui peut créer du vieillissement accéléré, en particulier, surtout chez des personnes particulièrement à risque, d'autres maladies, avec d'autres facteurs de risque, effectivement font une vraie problématique si on est réellement exposé. Donc ne pas regarder directement les sources lumineuses, de même qu'on ne doit pas regarder le soleil. Je préfère le rappeler parce que certains s'amusent à le faire et en général, on les retrouve avec des rétines en très mauvais état.
J'aimerais bien avoir le point de vue de Véronique Pesset sur la lumière et sur la photophobie.
La photophobie, c'est une gêne quotidienne dans des situations.
Je peux travailler lumière naturelle, lumière artificielle, LED,
tout type de lumière en fait. Et c'est très gênant. Alors j'ai des exemples en tête, notamment quand je conduis. Si j'ai le soleil qui arrive en face, sur le côté, alors en face, il y a toujours moyen de baisser un pare-soleil, mais sur les côtés, c'est parfois très gênant, ou un flash lumineux, ou enfin quelque chose qui vient vraiment gêner. Alors, je m'équipe, chapeau, lunettes de soleil. Et il y a eu une époque où j'ai été amenée à même mettre au quotidien des lunettes type glacier pour vraiment filtrer.
Donc
vraiment.
En ville avec des lunettes glacier.
C'est à l'époque où le professeur Baudouin a commencé à me soigner. Et il y avait des moments aussi, je ne supportais pas la lumière directe au travail. J'avais été... mon responsable m'avait prêté son bureau qui n'avait pas de lumière directe et qui me permettait de travailler.
C'est vrai qu'il y a quelque chose, professeur Baudouin, de contre-intuitif à se dire la lumière peut être toxique. Enfin, on a l'impression qu'on baigne dans la lumière, là on est en été. Et pourtant, oui, la lumière, non seulement artificielle, vous avez parlé de la lumière bleue, on y reviendra, mais la lumière naturelle, le soleil. C'est ça, cette chose qui est quand même difficile à admettre, peut-être. Alors, en allant jusqu'à des cas de photophobie, comme on vient de parler.
Alors, il y a beaucoup d'aspects qui méritent d'être développés. D'abord, un petit mot sur la photophobie. Il y a en fait deux types de photophobie. Il y a une photophobie qui est celle liée à l'éblouissement. On est dans un contre-jour, on reçoit une lumière forte, solaire ou artificielle, et donc on a une sorte d'aveuglement. On voit très mal, on voit des silhouettes, et pour peu qu'il y ait des maladies oculaires, on va être encore plus mal.
Quelles maladies oculaires peuvent renforcer la photophobie ?
Eh bien, le glaucome est un exemple particulièrement marqué dans lequel la réduction du champ visuel, l'accentuation de la captation de la lumière par les zones qui voient, va accentuer ces contrastes avec le paradoxe que l'absence de lumière ou des ambiances sombres sont également handicapantes. Hein. Il y a vraiment trop peu de lumière ou trop de lumière sont deux gros handicaps. Il y a une deuxième photophobie qui est celle qui se rapproche plus de celle de notre patiente, sachant que les deux peuvent très bien se combiner. C'est la photophobie douloureuse. Alors, elle passe pas par les mêmes mécanismes. Elle passe par d'autres types de cellules qui sont sensibles à la lumière. Et certaines de ces cellules sont impliquées dans les mécanismes de défense. Il y a trop de lumière, la pupille se resserre, on a envie de fermer les yeux, on a envie à la limite de se détourner. C'est un mécanisme sain de défense parce que, justement, je vais revenir dessus, la lumière peut être toxique. Ouais. Mais cette lumière peut également entraîner des stimulations des nerfs qui sont impliqués dans la douleur. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque, à nouveau, il y a une sensibilité individuelle, ça ne va pas jouer énormément, mais quelqu'un qui a les yeux secs, par exemple...
Comme votre patiente.
Exactement. Voilà. Qui a déjà une tendance à avoir des yeux douloureux, sensibles, avec des stimulations des nerfs cornéens qui sont déjà sur un mode... Alors, ça peut être de la vraie douleur, ça peut être de l'inconfort, ça peut être des sensations de grains de sable, des sensations de brûlure, tout un cortège de symptômes très, très désagréables, sur lesquels la luminosité, la lumière, notamment la lumière bleue, on va toujours revenir sur la lumière bleue, va arriver à créer une stimulation douloureuse supplémentaire. Donc, ce sont des patients qui souffrent réellement de la lumière.
La lumière bleue, on en parle ?
Lumière bleue, on en parle effectivement parce que nous...
Mais on en parle de plus en plus.
Nous, on s'est surtout intéressé finalement à comprendre...
Nous, c'est l'Institut de la Vision.
Nous, à l'Institut de la Vision, oui, évidemment. C'est essayer de comprendre, en fait, quelles sont les longueurs d'onde toxiques dans ce spectre de la lumière. Ouais. Et en particulier, donc, on avait l'idée surtout de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, on a créé des modèles cellulaires, hein, donc des cellules en culture, pour essayer de mimer la pathologie et regarder en fait la toxicité de la lumière. Et en particulier dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce sont les photorécepteurs qui dégénèrent. Donc on a cultivé des photorécepteurs. C'est vrai qu'on a pris des photorécepteurs de porc parce qu'on peut on peut obtenir des yeux à l'abattoir en quantité. Et donc on a mesuré la toxicité de la lumière sur ces photorécepteurs. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la lumière la plus toxique, donc la lumière qui arrive au fond de l'œil, donc sur la rétine, c'est vraiment cette lumière bleue qu'on dit violette parce qu'elle est proche des UV, proche des rayons ultraviolets.
Les rayons ultraviolets.
Donc c'est la lumière bleue violette, donc qui est finalement en dessous de 450 nanomètres, donc c'est 400-450. Et donc on a pu montrer que cette lumière est toxique pour nos photorécepteurs. Et surtout, ce qu'on a montré, c'est que l'intensité qui induit la mort de ces cellules, eh bien, si on calcule l'intensité de lumière qu'on reçoit sur nos yeux au mois d'août à Paris, eh bien, on aurait l'intensité toxique sur notre rétine. Donc, en fait, on montre que oui, la lumière est toxique pour notre rétine, pour nos photorécepteurs, et que déjà, même à Paris, pendant les mois d'été, eh bien, on a déjà une lumière qui est toxique.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, professeur Baudouin ? Qu'est-ce qu'on fait pour préserver notre rétine, nos photorécepteurs ? Enfin, quelles sont les solutions techniques ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, fort heureusement, l'œil a quand même des mécanismes de protection spontanés. La cornée va filtrer les ultraviolets les plus violents. Le cristallin derrière va filtrer les ultraviolets. La question du bleu est une question intéressante. Donc, le cristallin va filtrer une partie du bleu. Que les patients opérés de cataracte se rassurent, les implants ont tous des filtres anti-ultraviolets. Donc, il y a le même type de protection qu'avec un cristallin naturel. Donc, il n'y a pas de mise en danger des patients opérés de cataracte. En revanche, il est évident qu'à partir de certaines intensités, il peut y avoir une accélération. Alors, on parle de toxicité, c'est en fait une accélération d'un mécanisme relativement naturel de vieillissement. Ça passe par un stress oxydant. Alors, la prévention, c'est évidemment d'éviter de regarder directement des sources lumineuses trop importantes. Le soleil, évidemment. Alors, il y a les classiques accidents de d'éclipses.
Ah, les éclipses.
À chaque éclipse,
les gens baissent leurs lunettes.
Il y a toujours quelqu'un qui se met à regarder le soleil ou à travers juste des lunettes de soleil. Ce n'est pas suffisant, c'est dangereux et il y a des brûlures maculaires extrêmement importantes. Et c'est pas parce qu'un ancien président des États-Unis s'est mis à regarder le soleil pendant une éclipse qu'il faut absolument limiter. Le deuxième point, c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure sur les LED, les lumières très fortes, d'éviter de regarder directement la source lumineuse, hein, de rester dans une ambiance bien éclairée, mais on regarde ce qui est éclairé, on regarde pas ce qui est clair. Et puis, on arrive à la protection par des filtres. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que beaucoup de patients, là, je reviens plus vers nos patients qui souffrent, évidemment, ont bien identifié tout seul que la lumière était très désagréable. Alors, ils ont tendance à mettre des lunettes de soleil. Mais dans des lunettes de soleil, on va filtrer toutes sortes d'autres longueurs d'onde qui ne sont pas nocives et qui vont donc assombrir. Alors, quand il y a beaucoup de soleil, lunettes de soleil, c'est très bien. Il faut porter une lunette de soleil. J'en profite pour faire passer...
À partir de quel âge?
À partir de n'importe quel âge. Enfin, 2-3 ans, 4 ans, dès qu'un enfant est capable. Oui, moi, je suis désolé de voir des parents et des enfants sur une plage, en plein soleil à midi. En plus, il y a la lumière directe. On ne regarde pas le soleil, mais on regarde la mer sur laquelle le soleil se reflète. C'est un grand classique. Et donc, de voir des gens sans protection, ça me fait mal.
D'accord. Donc, les enfants qui ont les yeux beaucoup, qui sont en formation encore, je crois jusqu'à 14 ans, absolument. Lunettes de soleil, absolument.
Absolument. Et comme en général, quand les patients arrivent au stade de la DMLA à 70-75 ans, on oublie un peu, et certainement, de savoir ce qu'ils ont fait dans leur enfance à la plage, autant dire que la prévention, elle commence très tôt. C'est comme la peau. Les dermatologues sont unanimes, on protège la peau.
On protège les yeux. On est le 20 juin, ça tombe bien, vous l'avez entendu.
Et pour finir cette histoire, si effectivement on met des lunettes de soleil quand il y a beaucoup de soleil, ça va. Quand on met des lunettes de soleil qui n'y a pas beaucoup de soleil,
on est très gêné.
Donc il y a une recherche de plus en plus importante, notamment ici, ou avec des opticiens qui sont très, qui ont fini par bien comprendre l'importance de ce sujet, d'essayer d'identifier quelles longueurs d'onde, comme dit Serge Picot, certaines longueurs d'onde sont plus agressives que d'autres. On n'a pas encore parlé du côté visuel de la lumière bleue. Il y a un autre aspect qu'on en reparle après. Donc, de filtrer juste les longueurs d'onde qui sont soit les longueurs d'onde toxiques, soit les longueurs d'onde qui créent de la douleur, soit celles qui créent de la photophobie, sachant que ça va quand même se situer quelque part dans le bleu.
On va revenir aux aspects visuels de la lumière bleue, mais juste une question. Trop de lumière nuit, on a compris, à l'œil. Pas assez de lumière aussi, Serge Picot, à l'organisme et à l'œil. Le manque de lumière, vous évoquez la dépression, vous évoquez les dépressions saisonnières. C'est intéressant d'évoquer le manque de lumière et ce que ça a comme conséquence sur l'organisme. Et comment on y pallie ?
Après, je pense que le message principal, c'est quand même de dire à tout le monde, attention, portez vos lunettes pendant la période estivale. Et surtout les
enfants, je répète le message de Christophe,
mais je pense que c'est le message principal. Et surtout les enfants, puisqu'il y a cette maturation de l'optique de l'œil, où en fait la filtration des UV et de la lumière bleue augmente avec l'âge jusque vers l'adolescence. Donc bien rappeler aux parents, attention, vos enfants sont encore plus vulnérables. Et ce que disait Christophe, on a un peu notre capital soleil, un peu comme le capital pour la peau.
Capital visuel et solaire.
Donc on a aussi ce capital. Et si en fait on le consomme trop vite, eh bien on arrive vers les pathologies.
C'est ça.
Mais rappeler quand même qu'on a quand même cet effet bénéfique de certaines longueurs d'onde et que il faut quand même avoir cette exposition. Mais on considère que pour stimuler les rythmes circadiens, une vingtaine de minutes est largement suffisant. Donc en fait, il n'est pas nécessaire de rester 3-4 heures à la plage pour activer ces rythmes-là. Il suffit d'aller acheter son sandwich le midi. Et c'est suffisant. Donc, bien rappeler que oui, un peu de lumière, c'est bénéfique, mais trop, c'est dommageable.
Non, et pas du tout de lumière. Vous vouliez dire quelque chose, Véronique?
Non, c'était juste pour dire que c'était toxique, mais je pensais à notre beau pays qui est très riche de paysages. Donc, vous avez évoqué la plage. Moi, je pense surtout aux montagnes.
À la montagne et à
la
neige.
À la neige
et aux surfaces réfléchissantes.
Et voilà, c'est aussi même constat que le professeur Baudouin. On voit beaucoup de personnes qui n'ont pas de protection contre la lumière. Et on sait les dégâts que ça peut causer sur la neige.
À ce sujet, il y a une pathologie particulière à la neige, puisque la neige, un peu comme la mer, réfléchit la lumière. Quand on est en altitude, il y a moins d'atmosphère, donc moins de filtration des ultraviolets, donc la lumière est encore plus toxique. Mais alors, il y a une pathologie particulière des non-porteurs de lunettes à la neige. Donc, en général, quand ils se sont fait prendre une fois, ils portent des lunettes la fois d'après.
Allez-y.
C'est ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges. Alors là, c'est vraiment le pire. C'est tout ce qu'on a dit en encore pire.
C'est-à-dire, comment
une véritable brûlure cornéenne par les ultraviolets. Alors, c'est le degré ultime. Et alors là, une cornée qui a été décapée par une brûlure. Je peux vous garantir que la sensation que ça fait, vous brûlez la peau et vous passez toutes les deux secondes la main par-dessus.
Arrêtez.
Et vous verrez, vous comprendrez que ça fait mal, sauf qu'au niveau de l'œil, c'est beaucoup plus douloureux que la peau.
C'est réversible, parce que là, vous en parlez avec un sourire méphitique.
Oui.
Mais les gens qui sont atteints de ça récupèrent, recouvrent leur vision.
Que ceux à qui c'est arrivé se rassurent, ils n'en auront aucune séquelle.
Et ils ne recommenceront pas, vous
le dites. Mais ils recommenceront pas parce que c'est 24-48 heures d'enfer. Mmh. Bon, après, ça cicatrise très bien, c'est fini, pas de souci.
C'est une leçon. Donc.
Mais les services d'urgence d'ophtalmologie sont tous très, très, très habitués à voir ce genre.
L'ophtalmie des neiges.
L'ophtalmie des neiges, brûlure aux ultraviolets.
Les enfants, les grands, les plus grands, à la mer, à la montagne, des lunettes de soleil. Sans lumière, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'on vive dans le noir, quoi. Mais le manque de lumière, effet du manque de lumière sur l'organisme.
Bah déjà, si on n'a pas cette référence du soleil, même on se décale complètement. Hein. Mmh. Les rythmes circadiens. L'idée, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à souvent se lever tôt, d'autres se coucher tard. Eh bien, en fait, il y a des personnes qui ont un cycle qui va être plus court que 24 heures. Et donc, ils vont avoir tendance à se décaler. Et puis, d'autres qui ont un cycle plus long que les 24 heures. Et ce qui fait qu'en fait, si on était tous dans une cave dérivée, soit en avance, soit en retard par rapport au cycle normal des jours. Et donc, c'est là où on voit toute l'importance, en fait, de cette lumière qui nous recale notre horloge et qui nous remet dans le bon rythme. L'importance de la lumière, hein. Et on sait que ça a des effets, même sur certaines maladies comme le cancer et autres.
C'est-à-dire?
Donc, en fait, il a été montré que ça peut avoir vraiment un impact sur certaines maladies, type cancer.
Trop de lumière ou pas assez de
non,
lumière?
Le
mauvais rythme.
Le mauvais rythme. Justement. Et justement, tous les travailleurs postés peuvent avoir des problèmes liés à ce manque de rythme et de réglage de leur horloge. Mais ça, je pense que Christophe est mieux placé que moi pour en parler.
Alors, la lumière joue aussi sur l'humeur.
Oui.
Et donc, il y a des risques de dépression quand il n'y a pas assez d'exposition
évoqué
à la lumière.
Tout à l'heure, saisonnière.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui. D'ailleurs, les pays nordiques sont connus pour avoir des taux de dépression très importants parce qu'il y a justement ce manque d'exposition. D'ailleurs, certains fabricants ont proposé des lumières, mais qui ne sont pas des LED, qui sont des lumières de type spectre solaire pour essayer de rectifier. Juste un petit mot, la lumière, elle est également essentielle au niveau de la peau parce que c'est elle qui permet de produire de la vitamine D.
C'est ça.
Et la vitamine D fait partie des éléments absolument essentiels pour le métabolisme osseux et aussi pour la régulation de certaines inflammations chroniques et des cancers. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas se mettre dans une cave, il n'y a pas de doute.
Est-ce qu'on peut revenir à la lumière bleue? Vous vouliez évoquer les effets visuels de la lumière bleue, la dimension visuelle de la lumière bleue.
Alors, je vais juste expliquer quelque chose que notre patiente expliquera certainement encore mieux que moi, mais je vais quand même expliquer quelque chose. On a parlé de l'aspect toxique, mais il y a un autre aspect, c'est effectivement l'aspect de l'interaction visuelle.
Oui.
L'interaction visuelle, c'est que la lumière bleue a une caractéristique, c'est qu'elle a une propension à diffuser latéralement.
Mmh.
C'est-à-dire que quand elle traverse des microparticules, elle a une diffusion perpendiculaire. Si vous ne savez pas pourquoi le ciel est bleu, c'est pour cette raison. Vous vous êtes peut-être jamais posé la question de savoir pourquoi le ciel était bleu. Si on monte au-dessus des nuages, le ciel, il n'est pas bleu, il est noir. Nous le voyons bleu. Parce que précisément, cette lumière bleue solaire traverse avec des microparticules dans l'atmosphère, la haute atmosphère, et donc va créer une petite diffusion latérale, et c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu. S'il y a plus de densité de l'atmosphère, en d'autres termes des nuages, à ce moment-là, effectivement, les autres longueurs d'onde sont filtrées, la lumière bleue ne peut plus diffuser et le ciel n'est plus bleu. Donc, cette diffusion latérale a une importance, surtout quand elle traverse un film lacrymal de mauvaise qualité. On arrive à nos patients.
Aux yeux secs.
Aux yeux secs. C'est-à-dire qu'ils ont un film lacrymal qui est pas de très bonne qualité. Ils ont pas forcément les yeux très, très secs. Pas forcément les yeux très abîmés. Mais un film lacrymal de, qui est pas très homogène, pas très régulier. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il quand la lumière bleue des écrans en particulier?
Les écrans ordinateurs, hein, c'est ça.
Écrans d'ordinateur. Parle, parce que les écrans d'ordinateur ne vont pas avoir des niveaux de élevés de toxicité. Hein, parce que les intensités lumineuses par rapport au soleil sont très, très faibles. Donc, il faut pas s'inquiéter sur l'ordinateur. C'est pas parce qu'on est face à la lumière bleue de l'ordinateur et des écrans de LED qu'on va détruire la rétine. En revanche, cette lumière bleue de très faible intensité, elle a la elle a cette capacité à être un peu inhomogène. Elle traverse un film lacrymal qui est pas de bonne qualité. Mmh. Donc, que se passe-t-il? Bah, le patient qui est pendant des heures face à cette difficulté, va avoir une vision qui est de mauvaise qualité, va être obligé de cligner beaucoup plus, va entraîner des mouvements de fatigabilité en essayant de forcer pour voir un peu mieux, et va donc se retrouver avec globalement une fatigue visuelle qui va être de plus en plus importante.
Tu vas déboucher sur une fatigue
voire
nerveuse,
même intolérable. Ouais, en plus, ouais. Et c'est là que c'est important de bien comprendre que travailler sur ordinateur pendant des heures, c'est agréable pour personne. Mais pour quelqu'un qui a les yeux secs, ça devient une épreuve parfois vraiment terrible.
Oui, effectivement, ça, comme vous dites, hein, ça, je suis obligée de cligner très souvent des yeux. Il y a heureusement des larmes artificielles que je peux mettre régulièrement. Je pense que tout patient le fait également.
Oui, quelles sont les stratégies auxquelles vous faites appel pour tenter de pouvoir continuer à travailler tout en supportant les effets nerveux, visuels, de fatigue?
Les larmes artificielles sont vraiment une bonne aide qui permettent justement de refaire ce film lacrymal et qui permet de cligner des yeux plus facilement. Parce que sans ces larmes, en fait, on cligne des yeux, mais on a l'impression que ça accroche. C'est très désagréable comme sensation. Et après, c'est une hygiène de vie. Et boire beaucoup aussi. Boire de l'eau permet de...
Oui, de l'eau, vous précisez, vous avez raison.
On réhydrate le corps, mais également les yeux. Et c'est vraiment notable.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Serge Picot?
Non, c'est pas tellement mon domaine d'expertise. Tout ce qui est surface oculaire, je suis vraiment beaucoup plus sur le fond de l'œil et la rétine. Donc, nous, à l'Institut de la Vision, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de définir, en fait, les longueurs d'onde toxiques, en travaillant d'ailleurs avec des fabricants de verres, pour que eux puissent après proposer vraiment des solutions techniques pour les patients. C'était un peu l'objectif de notre travail à l'Institut pour définir vraiment très précisément ces longueurs d'onde toxiques.
Et là, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est vraiment important d'en parler à son opticien quand on est gêné par un écran d'ordinateur, par certains reflets, et de chercher vraiment la couleur. Parce que quand on parle de longueur d'onde, il faut comprendre que c'est une question de couleur. Mmh. Et chaque personne, même si on a parlé globalement de la lumière bleue, mais on a vu que dans le spectre, bleu, violet, bleu sombre, bleu turquoise, vert bleu, tout ça, c'est quand même une partie du spectre qui est relativement importante. Et on voit bien, quand on fait un peu de recherche clinique à ce sujet, que parfois, il suffit de bloquer une longueur d'onde très précise et on arrive à réellement aider les patients. Et
ça, avec le vert adapté au blocage de cette longueur d'onde.
On voit là sur l'écran, effectivement,
que on revoit le spectre.
Les longueurs d'onde toxiques sont celles qui vont vers les ultraviolets, donc le violet, le bleu très proche du violet. Mais dans les longueurs d'onde qui sont pas forcément méchantes et pas forcément toxiques, il peut y avoir ces interactions lumineuses et visuelles qui peuvent être à certains moments très gênants. Et donc, de déterminer la bonne longueur d'onde, en traduisant bien ça veut dire la bonne couleur, et pas forcément faire quelque chose de très sombre. On peut avoir le bon compromis entre quelque chose qui est confortable, qui améliore les contrastes en enlevant les images parasites et qui ne va pas assombrir globalement l'image, donc donner de plus grandes performances. Je voudrais juste dire un petit mot supplémentaire sur la fatigue visuelle. On a parlé des... Homogénéiser le film lacrymal avec des larmes artificielles, c'est très bien. Se protéger de certaines longueurs d'onde, c'est très bien. Contrôler l'environnement également, parfois supprimer une climatisation ou l'orienter un peu différemment.
Pourquoi? Quel est le rapport?
Parce que la climatisation dessèche.
Bien sûr.
Donc, du coup... une climatisation moins réglée, moins froide ou moins sèche, des humidificateurs. Tout ça, ce sont des petits moyens qui peuvent t'aider. Mais je voudrais dire un dernier mot. Quand on travaille beaucoup sur ces problèmes de surface oculaire, de sécheresse, d'inconfort, on découvre très souvent la conséquence de ce que je vous ai dit sur la fatigue. La fatigue, ça veut dire que les muscles forcent. Or, les yeux sont commandés par 6 muscles chacun, 12 muscles qui travaillent en permanence pour équilibrer la direction, la hauteur, la convergence quand on travaille de près, les mouvements pour passer d'une feuille de papier à l'ordinateur à éventuellement quelque chose qui est plus loin. Mmh. On comprend donc très bien que ces muscles s'épuisent. Et donc, des muscles qui s'épuisent, ça peut entraîner des douleurs supplémentaires. Ça peut entraîner un dédoublement des images. Alors, on verra pas double, c'est pas le capitaine Haddock qui voit deux Tintins. C'est ça se brouille, c'est ça qui va être la manifestation ressentie, ça se brouille. Et donc parfois, il faut retravailler sur les muscles. On le sait très peu.
Et comment on fait pour retravailler sur
les muscles ? Eh bien, on va voir quelqu'un dont c'est la spécialité.
Un orthoptiste ?
Que l'on appelle un ou une orthoptiste. Ah oui, ça peut rendre d'immenses services.
C'est ce que vous avez fait, Véronique Pessé ?
Oui,
ce que vous faites ?
J'ai des séances, j'avais eu un bilan orthoptique. Et j'ai des séances régulières pour justement faire travailler les nerfs optiques.
Et vous mesurez le soulagement que ça vous procure ? Enfin, vous avez pu le mesurer assez vite ?
Oui, ça facilite un petit peu tous ces mouvements qui sont rendus difficiles lors des gênes particulières.
Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui doit forcément, enfin, ceux qui nous regardent y pensent, la luminothérapie. On entend souvent parler de luminothérapie, soignez-vous avec de la luminothérapie pour le moral, le physique, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est la luminothérapie ? Est-ce que c'est une foutaise ? Ou est-ce que c'est véritablement, ça peut être quelque chose de très utile, de très efficace ?
L'idée, c'est de renforcer justement cette exposition à la lumière bleue turquoise, hein. La difficulté, c'est de s'assurer que les panneaux lumineux sont bien dans cette gamme de luminance et ont bien ce bleu turquoise, pas le bleu qui pourrait être toxique. Et donc, c'est vrai que c'est pour compenser finalement le défaut d'exposition au soleil et à une intensité quand même suffisamment élevée, parce qu'encore une fois, en fait, l'activation des rythmes circadiens nécessite une exposition à une lumière quand même plus intense que celle que vous avez dans votre domicile ou à votre travail.
Mais comment savoir si les panneaux en question devant lesquels vous vous exposez sont certifiés, efficaces, corrects par rapport ces dangers de la lumière ?
Je ne saurais garantir la qualité de la luminothérapie, mais il est clair que cette luminothérapie se fait sur un équilibre avec une lumière qui se rapproche du spectre du soleil. C'est-à-dire qu'il est moins déséquilibré bleu, il va aller plus vers d'autres bleus qui sont nécessaires, en particulier, on en a parlé pour l'humeur. Et donc, c'est un traitement adjuvant de la dépression qui est connu depuis très longtemps. J'ai envie d'ajouter qu'à une époque, alors on en trouve peu, je ne sais pas si on continue à en trouver depuis le développement des LED, mais il y avait des lumières dont les longueurs d'onde couvraient celles du soleil et qui étaient destinées en particulier à favoriser la pousse des plantes. Lumière du soleil. On voit bien donc que cette lumière naturelle, elle est importante pour tous les organismes vivants, plantes et un peu plus développés que les plantes.
Et un peu humains aussi. Est-ce que les personnes myopes, est-ce que la myopie peut être accélérée, déclenchée par une relation particulière à une lumière qui serait toxique ? Parce qu'on a parlé des DMLA. Est-ce que la myopie peut aussi rentrer dans le champ de ces problèmes déclenchés par la lumière ou le manque de lumière ?
Alors, la lumière, c'est l'inverse. La myopie, c'est l'inverse. La myopie, c'est comme les rythmes circadiens, comme l'humeur, c'est le bon côté de la lumière du soleil. La myopie, c'est une affection dont le manque de lumière, les efforts visuels de près, de manière continue, l'exposition éventuellement à ces lumières bleues des écrans, mais on ne sait pas trop si c'est vraiment la lumière bleue des écrans ou le fait qu'on est dans un environnement, par définition à l'intérieur, à exercer une vision de près en permanence, hein, les écrans d'ordinateur, les écrans de smartphone, ça favorise la myopie. Et on sait très bien qu'en Asie, où les gènes vont encore plus favoriser la myopie, c'est un facteur très important. Et la lumière bleue, la lumière du soleil, c'est pas pareil. Oui. Hein, c'est pas la lumière bleue toxique. La lumière globale équilibrée, parce que ce qui est dans le soleil, c'est pas qu'elle est toxique ou pas toxique, c'est qu'elle s'équilibre avec d'autres longueurs d'onde qui sont nécessaires. Et donc, cette exposition au soleil, cette exposition à un environnement extérieur, c'est aujourd'hui la meilleure prévention du développement de la myopie.
Aller marcher dans les prés et,
Par exemple. C'est les recommandations aussi, puisqu'en fait, ils ont montré que le fait d'envoyer les enfants trois quarts d'heure en cours de récréation, était une manière de prévenir l'évolution de la myopie. Donc exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire aller dehors, mais juste pendant des périodes quand même relativement courtes. On ne parle pas de de passer toute la journée dehors. Ceci dit, il semblerait qu'ils essayent de faire maintenant dans leurs écoles des systèmes avec en fait vraiment accès à la lumière du jour en permanence pour essayer de contrer en fait cette épidémie, puisque en Chine et dans les pays asiatiques, c'est pratiquement 90% des enfants qui deviennent myopes. Donc,
est-ce que les écrans, la consultation des écrans à une distance assez proche du visage a quelque chose à voir avec cette recrudescence de la myopie ?
Il semblerait surtout que c'est le fait que, aussi bien sur nos écrans que sur nos livres, les lettres sont noires sur blanc.
Et donc ?
Et que si on inversait, en fait, qu'on mettait les lettres en fait en blanc sur noir, on aurait peut-être moins ce développement-là. Parce qu'en fait, c'est dans notre rétine, on a en fait deux systèmes. On a un système qui s'active quand la lumière augmente et un système quand la lumière diminue. Et en fait, il semblerait que c'est ce système qui, quand la lumière augmente, est activé, qui aurait tendance à induire plus, réduire la myopie.
Je crois que le conseil à donner, c'est ni de diaboliser les écrans, les smartphones, les activités de près.
On vit avec.
Et il faudrait pas créer une surdramatisation. Mais il est clair, surtout pour des enfants qui sont en particulier à risque d'être myopes, il faut avoir une vie équilibrée. Je crois que c'est ça le message. C'est-à-dire que pour se protéger du soleil, quand il y en a beaucoup, mais avoir une activité sportive, une activité extérieure, garder les activités de près qui sont évidemment indispensables, qu'elles soient éducatives ou ludiques, mais avoir un équilibre, ne pas être pendant des heures entières sur son smartphone, dans un environnement éventuellement fermé et sombre.
Et climatisé.
Et climatisé.
Qui plus est.
Alors climatisé, c'est pour ceux qui ont les yeux secs, pour les enfants, ça
terrible.
Va en général.
Ouais.
Mais effectivement, essayer d'avoir un équilibre de vie qui est une généralité finalement pour un bon équilibre de santé.
Avant qu'on passe aux questions des internautes ou des fidèles de l'Institut de la Vision qui nous en ont envoyé quelques-unes, est-ce que l'Institut de la Vision, justement, précisément, est en pointe par rapport à ces problématiques liées à la lumière, à l'œil à la lumière ?
On a été en pointe pour définir ces longueurs d'onde toxiques, et ça, c'était vraiment une spécificité qui a été développée à l'Institut de la Vision. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur tout ce qui est œil sec. Justement, c'est une vraie problématique sur la douleur oculaire. L'équipe du professeur Baudouin travaille beaucoup sur cette thématique, justement pour essayer de comprendre en fait l'origine de cette douleur oculaire et pour limiter. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de toute une problématique pour aussi comprendre en fait comment dans les pathologies la lumière peut être toxique et éventuellement comment certains facteurs environnementaux de l'alimentation, par exemple,
l'alimentation aussi.
Peuvent prévenir l'évolution et peuvent filtrer en fait ou réduire le stress oxydant qui atteint en fait les cellules de la rétine.
Alimentation, c'est pas juste vitamine D, c'est quoi d'autre ?
Ça peut être effectivement tous les antioxydants qu'on va retrouver dans les fruits frais. On va retrouver finalement dans beaucoup de domaines, dont celui-là, des éléments de bon sens qui sont largement conseillés autour d'une diététique saine, plus d'oméga-3 poissons, moins d'oméga-6 graisses animales, des antioxydants qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes verts, pas trop cuits, etc.
La vie au plein air, faire du sport.
La vie au plein air, quelque chose d'équilibré, puis éviter ce qui est un peu trop agressif.
Ouais.
J'ai envie de dire pour finir, pour rebondir aussi sur la
pour
pointe.
Pour finir, vous êtes pressé?
La pointe. De l'Institut de la Vision, oui, parce que il y a tout un groupe qui est vraiment dédié à cet aspect toxique sur la rétine et les structures profondes. Nous travaillons sur tout ce qui est segment antérieur, film lacrymal, sur le plan également fondamental. Sur le plan clinique, on a ouvert une consultation de prise en charge spécifique des douleurs oculaires chroniques, dans lesquelles la lumière joue un rôle important. C'est pas que ça, mais ça joue un rôle important. Et on travaille aussi avec une équipe dédié d'opticiens et d'orthoptistes en basse vision, une équipe très très motivée maintenant, qui a très bien compris les problèmes spécifiques de la lumière et essaye d'aider les patients qu'on leur adresse et qui ont vraiment des problèmes particuliers avec la lumière. Et c'est quelque chose d'assez passionnant et de très très nouveau, parce que la réponse n'est pas mettez des lunettes de soleil, c'est essayer de déterminer les longueurs d'onde Et on voit bien que d'une personne à l'autre, et selon le type de pathologie, c'est pas la même chose.
C'est toujours singulier. Bon, alors voilà des futurs patients. Johan qui vous pose des questions. Je souffre beaucoup de douleurs oculaires et d'éblouissements, alors que je ne vis pas complètement dans le noir. J'espère. Existe-t-il un moyen, une nomenclature pour savoir quelle lampe ou écran acheter pour minimiser leur impact sur ma vision? Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, il n'y en a pas directement parce qu'en fait, ça reste une démarche empirique. Ouais. Et en fait, les écrans sont tous pareils. Ce qu'il faut, c'est peut-être voir en interne sur les écrans, sur des logiciels gratuits, si certains filtres peuvent atténuer. Après, il faut aller voir véritablement l'opticien. Et je pense qu'il va y avoir petit à petit des progrès qui vont être faits par les opticiens pour essayer d'être plus spécifiques et moins sur le côté, mettez des lunettes de soleil, cherchez vraiment la bonne couleur, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites et que les opticiens vont vraiment aider énormément les patients. Après, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, je vis pas tout à fait pas toujours dans le noir. Il y a des patients qui mettent des lunettes.
Je ne vis pas complètement dans le noir.
Ouais. Et oui, mais il faut être conscient qu'il y a des personnes qui mettent des lunettes de soleil très intenses chez eux et qui ferment les volets. C'est une vraie souffrance.
Psychique aussi, vraisemblablement.
Et psychique, quand on est obligé de sacrifier une partie de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, parce que si on dit à son employeur qu'au bout d'une heure, on n'en peut plus sur l'ordinateur, c'est pas dit que ça soit vu avec beaucoup de bienveillance non plus.
Juste une question, et on reviendra à celle des patients, mais oui, par rapport à la vie sociale et la vie professionnelle.
Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des équipes qui m'ont compris tout de suite. Alors, d'abord, j'ai été prise en charge par des soignants, professeur Baudouin, mais aussi les orthoptistes de l'hôpital des 15-20. Au niveau de mon environnement de travail, les personnes ont bien compris. Il y avait le service médical, il y avait les hiérarchies. Donc, on a vraiment adapté mon poste de travail. On m'installait à des bureaux pas trop près des vitres, enfin ce genre de petits détails, mais qui sont très très importants pour un patient comme ça. Et au niveau vie sociale, enfin l'environnement proche, bien sûr, tout le monde était solidaire, compréhensif et voilà, aidé dès qu'il pouvait.
Ce qui n'est pas toujours le cas, et je suis heureux que vous en ayez bénéficié. Très souvent dans ce genre de situation, l'environnement est plutôt dans le côté peut-être pas rejet, mais incompréhension, de plaintes de personnes qui souffrent, qui parfois se plaignent de manière un peu chronique. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la
douleur. Quand on avait fait l'émission sur la douleur oculaire, effectivement, il y avait ça. Je ne suis pas comprise, je me souviens de ça. Alors, une question de Félicité, à mon avis, la réponse va être, à chaque cas, le vert est différent. Je suis monophtalme suite à une méningite. Les verts teintés de catégorie 2 ne me soulagent pas du tout et je ne vois rien, et moi non plus. Avec les verts de catégorie 3, pourriez-vous me conseiller le type de vert qui pourrait rendre mon quotidien plus agréable?
Alors là, on est dans un type de photophobie qui est la photophobie d'éblouissement et non pas de douleur, donc pas forcément les mêmes longueurs d'onde. Là, c'est vraiment un travail à faire. J'espère vraiment que les travaux que nous faisons ici avec des équipes dédiées vont permettre de guider l'ensemble, de créer des conseils pour que l'ensemble des opticiens puissent aller vraiment beaucoup plus finement, puisqu'on voit très bien, ce témoignage rejoint et illustre exactement ce que j'ai dit. On met des lunettes de soleil et puis si ça suffit pas, on en met des plus foncées, mais si on en met des trop foncées, on voit plus rien. Donc c'est pas comme ça, il faut aller vraiment chercher le filtre qui filtre vraiment la longueur d'onde la plus toxique. Et là, effectivement, il n'y a pas de règle. C'est vraiment un travail à faire avec chacun.
Un ajustement individuel. Alors, Hélène, on entend souvent qu'il faut exposer notre organisme à la lumière naturelle le plus possible. Faut-il aussi exposer nos yeux à cette lumière en retirant les lunettes de soleil sur une courte période pour majorer les effets Serge Picot? Que dites-vous à Hélène?
La réponse est oui. On en a beaucoup parlé.
Mais ils sont pas d'accord.
Mais il faut effectivement que ce soit sur une courte durée.
Oui.
Je pense que après, en plus, quand c'est un soleil très lumineux, même à travers les lunettes de soleil, on a quand même une exposition importante à la lumière.
Oui. Il est clair que ça dépend de l'intensité lumineuse.
Oui.
Si on est à la plage à midi avec les reflets sur la mer, ou pareil à la montagne avec la neige, faut vraiment pas enlever les lunettes de soleil parce que de toute façon, on est dans une exposition solaire importante, donc on n'a pas besoin d'y aller de manière massive. Et même à travers des lunettes de soleil, ce qui peut passer quand il y a beaucoup de lumière, ce qui va passer sera largement suffisant pour avoir un bon moral. Donc, faut pas aller y aller trop. En revanche, c'est tout à fait exact que surtout dans des environnements ou des saisons un peu sombres où il y a beaucoup de grisaille, et là, effectivement, aller un peu à la recherche d'une lumière qui manque. Hein, c'est pas aller à la recherche d'une très grosse lumière, mais c'est une lumière qui manque. Essayer de retrouver une lumière dans les occasions où on peut, c'est évidemment très sain.
Je suis atteinte, dit Pauline, de photophobie avec des douleurs et des migraines atroces. Que faire ? Consulter ? Non, mais...
On peut répondre évidemment à la même chose. Il faut essayer de voir qui fait quoi dans cette affaire. Oui. Par exemple, tous les migraineux savent très bien que dès qu'ils regardent une lumière forte, il y a un mécanisme de resserrage de la pupille qui est musculaire. Et qui, la plupart du temps, entraîne des déclenchements douloureux. La lumière resserre la pupille, la lumière envoie aussi des signaux douloureux. Et tous les migraineux savent très bien que c'est particulièrement pénible. C'est bien pour ça qu'ils se mettent dans le noir. C'est pas parce qu'ils ont envie de se protéger d'une éventuelle toxicité. C'est que c'est intenable. La sécheresse, on l'a dit tout à l'heure, elle est un facteur qui accentue l'insensibilité à la lumière. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent être traité par ailleurs. On a bien vu que homogénéiser le film lacrymal, changer l'environnement, diminuer certaines expositions, ça peut quand même aider.
Et la dernière question de François, y a-t-il un seuil de temps quotidien maximal à respecter pour l'utilisation des écrans ? J'ai 43 ans, avec le confinement et le Covid, j'ai passé plus de temps qu'avant devant mes écrans chez moi. Alors, seuil maximal avant des dégâts irréversibles.
Il n'y a pas de règle à ce sujet puisqu'on va retrouver des éléments qui sont multiformes. Mmh. Bon, d'abord, l'écran a une quantité de lumière, même si ce sont des LED, les écrans plats sont des LED. Ouais. Mais ce sont des LED de très faible intensité. L'écran est rarement blanc pur. Enfin, en tout cas, on va la plupart du temps quand même remplir son écran avec quelque chose. Donc là, on peut pas dire que le côté toxique va apparaître. Donc il y a des seuils de toxicité. À la différence des lumières, les LED lumineuses, les LED qui éclairent, qui elles sont de très forte intensité avec des très très fortes luminances. Ouais. Hein, c'est très différent. Deuxièmement, s'il y a des facteurs aggravants, lumière bleue des écrans, sécheresse oculaire, fatigue visuelle, tous ces facteurs-là, effectivement, il faut essayer de les contrôler parce que de toute façon, à un moment, ça devient trop pénible. Donc là aussi, c'est pas une question de règles. Certains vont tenir des heures, d'autres vont s'épuiser beaucoup plus vite. Alors ça peut se régler par de simples pauses, ça peut se régler par une gestion musculaire, on l'a vu, une gestion d'une sécheresse oculaire, on en a parlé également. D'accord. Donc il n'y a pas de règle absolue. En revanche, il est très clair que quand il y a un adolescent qui va passer 10 heures, 15 heures de ses 24 heures exposé à de la lumière, dont de la lumière bleue, et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que la lumière bleue, c'est très très bien pour l'éveil, ça stimule l'éveil, ce qui fait que si vous mettez sur des écrans et de la lumière bleue le soir, vous dormez.
Vous ne pouvez pas dormir. Oui. Oui. Enfin, ça repousse le moment où vous pourrez vous endormir. Vous vouliez ajouter quelque chose à cette question?
Non, juste préciser quand même qu'il ne faut pas avoir d'angoisse non plus par rapport à son écran, parce que à entendre tout ce qu'on dit sur la toxicité de la lumière bleue, on pourrait avoir une crainte par rapport au fait d'être devant son écran. Et je pense que c'est vrai qu'une bonne hygiène de vie avec, en fait, des pauses régulières, éventuellement sortir pour avoir, en fait, une vision au loin sur l'horizon, permet aussi un peu, je pense, de régler ces problèmes, d'avoir une constriction un peu de la pupille, etc. Donc, des phénomènes où on va justement essayer de limiter un peu tous les effets un peu néfastes.
Une dernière question justement par rapport aux écrans. Si vous êtes devant vos écrans le soir pendant des heures, vous risquez de ne pas arriver à vous endormir. Les gens peuvent se dire, mais pourquoi ? Comment se fait-il ?
Parce que la lumière bleue stimule les centres de l'éveil.
Ouais.
On se couche quand il n'y a plus de lumière, du soleil, naturellement.
Perturbation des rythmes circadiens.
Alors, c'est les rythmes, mais oui, ça passe par les rythmes, mais c'est la sécrétion de mélatonine.
Voilà.
Et donc, la mélatonine est nécessaire pour à un moment stopper le système. C'est comme c'est une machine. Le cerveau est une machine qui fonctionne en permanence. Il y a un moment où il faut quand même la mettre au repos. Donc il y a ce rythme qui est à l'état naturel, puisque avant qu'il y ait des éclairages, l'homme a vécu quand même au rythme de la lumière du soleil. Donc on se lève avec le soleil, on se couche quand il n'y a plus de soleil. Et donc effectivement, si vous continuez à stimuler toute la soirée avec des longueurs d'onde, alors ça, la lumière naturelle, ça va. Mais si vous êtes tard avec de la lumière bleue, ben, pour le cerveau, c'est comme si vous étiez encore au soleil.
En plein soleil.
Surtout si la luminance globale est assez faible et que votre écran a une luminance très forte. Donc, en fait, votre pupille va être dilatée parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière chez vous. Et puis, en fait, votre écran, lui, il a une luminance très forte. Et ça, du coup, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans votre œil.
Un dernier mot, Véronique Pesset, avant de rendre l'antenne.
Non, bah, disons qu'il faut faire très attention à ces lumières plus ou moins toxiques. Ce qui est gênant aussi, également, c'est les variations très rapides de lumière. Oui. Quand on passe de chez soi, où on a une luminosité à laquelle on s'est bien habitué. Et là, en ce moment, on sort. Là, pour le coup, on a vraiment une vraie agression par une luminosité très forte. Donc, c'est aussi cette variation qui est à gérer pour les patients sensibles aux lumières intenses.
Merci beaucoup. C'est la fin donc de cette émission. Nous avions deux lumières scientifiques, je peux pas m'en empêcher, qui nous ont éclairé grandement sur la lumière bleue, les LED et la lumière naturelle. Et merci à vous, patientes expertes et patientes référentes. Donc l'émission à la veille de la journée la plus longue de l'année, ce sera un bonheur, c'est demain. Et la prochaine, écoutez, vous trouverez les coordonnées de la prochaine émission, de la prochaine Web TV de l'Institut de la Vision sur le site de l'Institut de la Vision. Merci de nous avoir suivi, d'avoir été fidèle.
Vous venez d'écouter Les Experts parlent aux patients, le podcast de la Web TV de l'Institut de la Vision. Retrouvez aussi cette émission en vidéo en vous inscrivant sur la plateforme www.institut-vision.org pour découvrir les prochaines émissions en direct.